Valérie Piette est historienne de l'ULB et elle mène des recherches qui s'articulent autour de trois axes. Le premier axe concerne l'histoire des femmes, du genre et des sexualités au XIXe et XXe siècle. Le second concerne plus précisément l'histoire sociale. Le dernier axe de ses recherches traite de l'histoire coloniale, en particulier les rapports entre la Belgique et son ancienne colonie, actuellement République démocratique du Congo. Le 25 octobre 2016, elle donnait une conférence à La Louvière dans le cadre de l'extension de l'ULB.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. On va démarrer sur l'histoire du féminisme avec cette question, hein, on l'a déjà soulevée, combat inachevé, il manque peut-être le point d'interrogation, hein, toujours ce fameux point d'interrogation, et non, et on le verra. Donc je vais dans un premier temps revenir évidemment sur cette histoire, voir que c'est pas aussi simple que ça et que ça a été long. Je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui au moins deux grandes voies du féminisme, parce que le féminisme, on le verra, est avant tout pluriel, hein, et on parle surtout des féminismes d'ailleurs. Deux grandes voies donc de ce féminisme, une voie plus politique, l'accès au suffrage universel, hein, au droit de vote, à la citoyenneté des femmes, qui est en des combats, et on sait que ce combat n'est pas totalement terminé, même si il devrait l'être depuis 1948, et une deuxième voie qui est la voie de l'éducation et de l'enseignement. C'est quand même deux des grandes voies que les féministes ont pris à bras le corps. Alors si j'ai un peu de temps, mais là je serai peut-être de plus en plus longue, j'essaierai aussi de parler beaucoup du corps, qui est le corps des femmes, qui a été une des voies importantes du néo-féminisme cette fois-ci dans les années 70. Et comme vous le savez, tous ces combats ont pu se faire grâce évidemment à des féministes, des militantes, mais aussi à des féministes, des militants. Hein, Roger Lallemand vient de nous quitter, c'était un homme profondément féministe, comme normalement devrait l'être toute personne qui se bat pour l'égalité, l'émancipation des êtres humains. Et donc d'emblée pose la question, évidemment, hein, je ne suis pas féministe, je suis féministe mais, ou je ne suis pas féministe mais, on l'a déjà entendu des centaines et des centaines de fois, à quel point le terme féministe est marqué. Hein, rares sont les femmes, peut-être que les hommes ont plus facile à se dire féministes d'ailleurs que les femmes, à quel point le mot est connoté. Hein. Alors on pourra y revenir longuement. On n'ose pas trop s'affirmer féminisme. Alors on va me dire c'est parce que le isme n'est plus très à la mode pour l'instant. Hein. Tout ce qui est en isme peut poser question. Mais bien plus que ça, hein, on verra que dès qu'il y a eu féminisme, il y a eu anti-féminisme et que depuis le début, on voit véritablement un anti-féminisme qui répond continuellement au féminisme et qui a caricaturé souvent à l'extrême le féminisme pour le dénigrer. Et ces anti-féministes sont aujourd'hui d'ailleurs extrêmement nombreux, notamment les mouvements masculinistes qui veulent revenir à une société dirigée que par les hommes, qui remettent en cause le droit de vote des femmes. Hein. On voit ce type de mouvement se développer beaucoup pour l'instant en Amérique du Nord, notamment au Canada. On pourrait y revenir, mais donc voilà, cette question, hein, ou en tout cas, je ne suis pas féministe, mais le mais, hein, qui dit, bon, le mais, c'est qu'il y a quand même un problème, c'est que quand même il se passe quelque chose, c'est que quand même il faut bouger, mais surtout, ne m'appelez pas féministe. Hein. Et des femmes, quelquefois, qui se sont engagées ouvertement pour le droit des femmes, qui ont bouleversé la société, refusent l'étiquette féministe qui serait sulfureuse, qui poserait question. Alors, féminisme, c'est un mot qui nous vient de la fin du XIXe siècle et qui a porté quelquefois d'autres noms. Hein, nous sommes très marqués en Belgique, mais si on voit, par exemple, l'Angleterre ou les États-Unis, c'est le mot suffragette qui a été extrêmement présent, beaucoup plus présent que féministe, peut-être même encore aujourd'hui. Hein, le mot mouvement de femmes est préféré au mot féminisme. Le mot féminisme est un mot français qui nous vient de la fin du XIXe siècle et qui était un peu une sorte d'insulte à la fin du XIXe siècle, disant qu'en fait, les féministes étaient ceux qui qui acceptaient quasi l'adultère de leur femme, qui n'étaient pas vrais, des vrais hommes, qui ne se battaient pas si leur femme avait un amant. Donc c'était très critiqué, le mot féminisme. Et comme souvent avec ces mots, hein, qui marquent quand même l'histoire, des féministes, en tout cas des femmes qui luttaient pour leur émancipation, ont repris le mot à leur compte, avec une sorte de fierté, hein, comme on a pu le voir avec le mot nègre et la négritude, hein, reprendre le mot pour en faire une identité forte. Donc en Angleterre ou aux États-Unis, c'est plutôt les suffragettes, hein, qu'on a revues beaucoup ces derniers temps grâce ou à cause du film qu'on a fait notamment autour d'une figure, Emmeline Pankhurst, qui a été la grande féministe anglaise du début du XXe siècle. Alors, elles se sont évidemment fait remarquer, ces suffragettes. Il ne faut pas oublier que le féminisme est en mouvement. Hein, c'est pas en parti. Il n'existe quasi pas de parti féministe au monde. En Belgique, il y en a eu un où il y a eu très très peu de membres, le Parti féministe unifié, quelques dizaines de membres, pas plus. Il n'y a pas de parti politique féministe. C'est des mouvements, et c'est des mouvements intermittents. Le féminisme, il va, il vient, il avance, il recule, il se reconstruit. C'est sa force. Hein, c'est une force terrible. C'est aussi sa plus grande faiblesse. C'est que souvent la mémoire se perd. Alors il faut des historiens ou des historiennes, quelquefois, pour rappeler ces mouvements. Mais les féministes ont toujours l'impression de repartir à zéro et de ne pas connaître leur histoire. Emmeline Pankhurst est une bourgeoise anglaise qui ne peut pas voter. Les hommes anglais peuvent voter. Elle ne peut pas voter et elle va tenter, par des actions de rue notamment, de montrer que les femmes peuvent aussi accéder aux droits de vote. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va haranguer la foule, notamment. Alors ça paraît banal, hein, une femme qui s'adresse à la foule. Vous savez qu'en Angleterre, dans tous les parcs publics, vous pouviez, hein, ça a un peu changé, mais enfin vous pouviez dire ce que vous vouliez d'ailleurs et faire de longs discours, et on pouvait parler de tout et de rien, y compris de la monarchie. Vous pouviez tout dire, hein, les pires horreurs. Vous aviez le droit, vous aviez une tribune. Alors c'est vrai, c'est très anglais, d'une certaine manière, mais c'est peu féminin. Hein, il n'y a rien de plus terrible, c'est encore quelque chose que l'on voit aujourd'hui avec les jeunes femmes, c'est de parler en public. C'est un apprentissage qui est très masculin. Hein. La prise de parole publique est quelque chose d'extrêmement, en fait, masculin et peu féminin. Hein. Donc, prendre publiquement la parole, haranguer la foule comme le faisait Emmeline Pankhurst, est déjà une transgression. Hein. Elle transgresse la norme, elle transgresse l'ordre établi en prenant cette parole et en réclamant le droit des femmes. Alors, Emmeline Pankhurst va faire bien d'autres choses, évidemment. Elle est aussi connue pour s'être enchaînée aux grilles de Buckingham Palace. Hein. Elle va faire une grève de la faim. Elle va saccager des clubs réservés qu'aux hommes, des clubs, des bars, mais aussi des clubs de golf. Hein. Elle va venir dans les clubs de golf. Et vous savez que ça peut faire sourire, mais c'est très récemment que les femmes peuvent jouer au golf. Hein. Ça a été très longtemps fermé aux femmes, mais aussi aux personnes d'origine immigrée, aux gens de couleur, comme on disait. Elle va ici s'enchaîner aux grilles du Palais Royal. Elle va donc, je vous l'ai dit, faire une grève de la faim. Elle sera d'ailleurs forcée, quand elle va être arrêtée par la police, on va la gaver de force pour qu'elle ne meure pas à trois reprises. Donc voilà, c'est une personnalité forte. Ces images font souvent sourire. On voit donc Emmeline Pankhurst emmenée, hein, elle pédale quasi avec les pieds, emmenée par la police, arrachée de force aux grilles du Palais Royal pour aller vers la prison. Ça peut peut-être faire sourire aujourd'hui. J'aurais pu vous montrer des images des grandes grèves du début du XXe siècle en Belgique pour obtenir le suffrage universel, comme on l'appelait, où il y a eu des morts parce que la police et la gendarmerie a tiré. Ça ne fait sourire personne. Hein. Ça, c'est de l'histoire, d'une certaine manière. Alors qu'en fait, elle a fait la même chose. Bon, elle est plus bourgeoise, c'est vrai. Elle est plus seule, même si les suffragettes étaient quand même, elle n'était pas toute seule, elles étaient nombreuses. Mais ce qui est intéressant, c'est comment l'histoire a retenu les choses. Hein. Le suffrage universel masculin, avec des milliers de personnes en rue, des manifestations, c'est entre guillemets quelque chose de noble. Le suffrage féminin, C'est un homme une voix, une femme une voix, hein, je veux dire, c'est tout ce qu'elle demandait, fait souvent sourire, alors que c'était quand même 50% hein, de la population qui était totalement exclue du suffrage féminin. Voilà, tout ça c'était mon introduction. Pour revenir maintenant à ces deux avancées peut-être assez fondamentales et qu'on va essayer de détailler au fur et à mesure de cette conférence. Deux avancées, ben, c'est évidemment la pilule contraceptive hein, qui va être inventée dans les années 50, commercialisée à la fin des années 50 et en 1960, la libération du corps des femmes d'une certaine manière, en tout cas de la reproduction, hein, qui est sans doute l'invention la plus importante, en tout cas à mes yeux, du XXe siècle. Et une autre avancée tout à fait spectaculaire, c'est l'accès aux études, hein, l'accès à l'université notamment, mais pas que, l'accès aux études, et on verra aussi que là, le cheminement a été long et extrêmement difficile. Ça paraît évident aujourd'hui à toute la jeunesse et les jeunes générations, mais ça a été des combats, tout ça n'a pas été facile à obtenir. Alors, on va partir, on va véritablement partir sur la Révolution française. Commençons à la Révolution française, qui est quand même pas anodin dans l'histoire contemporaine, c'est le début notre histoire, avec cette influence énorme des Lumières et sur les Lumières et de la Révolution française sur la citoyenneté, évidemment. Alors, on connaît tous les idéaux des Lumières et de la Révolution française, ils nous sont importants, fondamentaux, normalement. Ce qu'on oublie souvent de dire quand on parle des Lumières ou de la Révolution française, c'est que la place des femmes a posé souvent problème. Il y a, et je reviendrai ici à cette phrase de Jean-Jacques Rousseau, hein, qui est presque en slogan d'une certaine manière. Alors Jean-Jacques Rousseau, on le connaît, une des grandes lumières, un des grands penseurs, qui s'est beaucoup occupé de l'école, notamment. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il écrit ? L'homme crée et la femme procrée. Hein ? Donc pour lui, il est évident que l'homme, c'est la création, la femme, c'est la procréation, et il n'y a rien à changer à cela. C'est pas pour ça que la procréation n'est pas importante, c'est pas pour ça que le pouvoir des femmes n'est pas important au sein de l'intérieur et au sein de la maison et de l'éducation des enfants, hein. Mais néanmoins, pour lui, il ne peut pas y avoir de femmes qui pensent. Il ne peut pas y avoir de femmes génie, hein, le génie, et d'ailleurs c'est des idées qui nous sont restées, hein, si je vous avais demandé au début de la conférence de me citer en génie, enfin dix génies, vous m'aurez cité que des hommes, la plupart du temps. Le génie est masculin. On cite très peu les femmes. C'est pas anodin. C'est aussi une construction historique, évidemment, et culturelle. Et donc, cette idée que Jean-Jacques Rousseau va mettre en avant, c'est une de ses idées parmi bien d'autres, évidemment. On la connaît mal. Et pourtant, elle a été fondamentale. Parce que les Lumières, mais aussi les encyclopédistes, Diderot d'Alembert, et aussi par la suite les révolutionnaires qui vont s'appuyer sur les idées des Lumières, vont un peu prendre tout, hein, le bébé et l'eau du bain, d'une certaine manière, et c'est-à-dire qu'ils vont prendre les idées de Rousseau, c'est-à-dire que pour les révolutionnaires, l'homme crée et la femme procréer, et que donc il n'y a pas la même citoyenneté pour un homme que pour une femme. C'est une idée qu'on oublie, mais qui nous vient aussi, alors à l'ULB ou en tant que laïque, on la met peut-être un peu de côté, mais c'est une idée aussi qui nous vient de ces fameuses Lumières. Pourtant, comme on le voit, les femmes sont là, la Révolution française. Elles sont présentes. Hein. On les appelle les boutefeu parce qu'elles vont mettre le feu. Elles vont mettre le feu lors des émeutes. Elles vont réclamer le pain. Elles vont être extrêmement présentes lors des événements révolutionnaires. Elles vont participer au club patriotique. Ici, le club jacobin. Ce sont les toutes premières les tout premiers moments de la Révolution française, hein, la première Révolution française, 1789, 1790, 1791, et puis on sent très vite un recul du politique par rapport à ces femmes qui sont engagées dans cette révolution, notamment avec le procureur de la Nouvelle République, Chaumette, qui en 1793 hein, écrit « Depuis quand est-il permis aux femmes d'abjurer leur sexe, de se faire homme ? Depuis quand est-il d'usage de voir les femmes abandonner les soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants, pour venir sur la place publique, dans la tribune aux harangues, à la barre du Sénat, remplir des devoirs que la nature a départis à l'homme seul ?» Vous voyez, c'est clair. C'est très clair, et cela aura des conséquences terrible. Cela a des conséquences terribles, notamment pour une Olympe de Gouges, pour une Madame Roland, qui tient un salon, pour une Olympe de Gouges qui réclame les mêmes droits aux citoyennes qu'aux citoyens. Elle va écrire d'ailleurs cette fameuse déclaration des droits de la femme, parce qu'on dit toujours que la déclaration des droits de l'homme, c'est le grand H, mais c'est très discutable. À l'époque, c'était le petit H, et donc elle va écrire une déclaration des droits de la femme qui, en fait, reprend exactement article par article, mais en féminisant les articles, puisqu'évidemment, elle va le payer de sa vie. Donc, vers 1792-93, c'en est un peu fini de cet élan révolutionnaire, en tout cas pour les femmes. On va accepter qu'elles assistent aux discussions politiques. Vous savez que c'est un moment où on refait le monde, hein, c'est une révolution. On refait la société, on repense les choses, on repense le public, on repense le privé d'une certaine manière. Et les femmes peuvent assister en haut, loin, et elles écoutent, mais elles ne peuvent pas intervenir. Alors elles crient quelquefois, elles haranguent, et elles viennent. Et vous savez, c'est bien connu, les femmes peuvent faire plein de choses en même temps. Pour pas passer des après-midi ou des journées inutiles, elles viennent avec le tricot. Et on va donc les appeler les tricoteuses. Celles qui mettaient le feu, les bouts de feu, deviennent des tricoteuses. Elles sont là, elles assistent, mais elles ne peuvent pas agir. L'action, en tout cas politique, est terminée pour elles. Et donc, elles vont tricoter. Même chose d'ailleurs, elles pourront assister au moment où les têtes tomberont. Et là aussi, elles prendront leur tricot. Et donc, Olympe de Gouges va être condamnée à mort et va être décapitée, enfin guillotinée, pour, et c'est la sentence du juge, hein, elle voulut être homme d'État, et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. C'est donc pour cette raison qu'elle va être guillotinée, parce qu'elle voulut être homme d'État, c'est-à-dire qu'en fait, elle voulait simplement avoir les mêmes droits que les hommes, des droits politiques. Alors, il y a plein de débats aujourd'hui sur Olympe de Gouges, qui a été complètement revisitée par les historiens et les historiennes. On parle beaucoup d'elle au Panthéon, en France aujourd'hui. Il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, son buste vient d'être découvert. Enfin, on vient de la remettre en avant, hein, parce que c'est une des personnalité forte de la citoyenneté de la République française, même s'il est tombé dans l'oubli pendant très longtemps, puisqu'elle sera guillotinée. Donc, ces idées de la Révolution française, la Révolution française, c'est la naissance du 19e et du 20e siècle, et donc, évidemment, ces idées vont perdurer dans ce 19e siècle qui voit, oui, une bourgeoisie triomphante, oui, une urbanisation importante, mais qui voit aussi un code civil qui va voir le jour, le fameux, un des fameux codes Napoléon, le code civil et le code pénal, et aussi le discours scientifique. Alors d'abord, ce fameux code civil, rédigé par Napoléon, ben, nous savons bien que ce n'est pas lui qui l'a rédigé, hein, c'est tous les juristes de la République et de l'Empire qui vont le faire, mais ce code civil, il est aussi extrêmement clair, en fait, ce code. Hein. On doit apprendre à la femme qu'en sortant de la tutelle de son père, elle passe sous la tutelle de son mari. Premier point. Deuxième, parce qu'ils peuvent être très bucoliques à l'époque de Napoléon, enfin ici aussi, hein. La femme est sa propriété, donc à son époux, comme l'arbre fruitier est celle du jardinier. Alors, un jardinier doit bien s'occuper de l'arbre fruitier, on est bien d'accord, autrement c'est pas un bon jardinier. Néanmoins, le ton est évidemment donné, hein. Ça c'est en texte de loi, hein. Vous voyez comment on introduit les textes de loi, mais c'est évidemment extrêmement fort comme... comme entrée en matière, et ça va avoir des répercussions extrêmement importantes sur le 19e et 20e siècle, puisque ce code civil va régir notre vie tous les jours. Alors tout de suite en bémol, hein, parce qu'on parle toujours de ce code civil en disant « la femme est l'éternelle mineure », c'est comme ça que la loi le voit, elle ne peut pas ester en justice, elle ne peut pas être témoin, elle ne peut pas travailler sans demander l'autorisation de son époux, elle ne peut pas conduire une voiture sans autorisation de son époux, elle ne peut pas ouvrir un compte d'épargne, etc., etc. Tout ça découle du code civil, oui, mais souvent ça se passe bien. Voilà, il y a ça aussi, hein, qu'on oublie de le dire. Quelquefois, il n'y a pas de problème et on ne remarque quasi pas que le code existe. Enfin, on le remarque quand on se marie, évidemment. Et c'est bien ça ma deuxième remarque, c'est qu'il faut se marier pour arriver à ça. Autrement, vous restez sous la tutelle de votre père jusqu'à l'âge de votre majorité, et puis vous êtes célibataire. Et en fait, une célibataire a beaucoup plus de droits qu'une femme mariée, une divorcée ou une veuve, et c'est pour ça que les historiens voient beaucoup les veuves, notamment quand ils travaillent sur les femmes au XIXe siècle ou au XXe siècle, parce que tout à coup, on les voit apparaître, on se rend compte de ce qu'elles font, du travail qu'elles font, etc., parce que là, elles ne sont plus sous la tutelle, c'est elles, hein, elles en tant qu'elles. Et donc là, il y a un grand changement. Donc, c'est les femmes mariées, et les femmes mariées, ben, c'est 50% des femmes, un peu moins même, au XIXe siècle. Hein. Tous les couples ne sont pas mariés, certainement pas dans la classe ouvrière, on ne voit pas du tout l'intérêt de se marier. Le mariage est avant tout une construction économique, voulue aussi par Napoléon, et comme on disait à l'époque, tant qu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de problème, on ne divorçait pas, puisque c'était purement en acte, en contrat économique. Et donc, la femme mariée est sous la tutelle de son époux, mais la femme non mariée, divorcée ou veuve ne l'est pas, ou ne l'est plus, hein, et donc a beaucoup plus de liberté, et donc évidemment, sont beaucoup plus visibles aussi pour l'historien. Donc, fameux code civil, qui évidemment aura des influences importantes, affirmant l'infériorité matrimoniale de la femme. Et puis, parallèlement, donc ça c'est la loi, c'est le code, il y a toutes les lumières qui sont derrière nous d'une certaine manière, et puis parallèlement à ça, il y a tout un discours scientifique, hein. Le 19e siècle est vraiment une société de science, en tout cas où on veut tout scientifiser, le discours scientifique, à la fin du 19e siècle, va véritablement marquer l'infériorité de la femme également, va légitimer cette infériorité. Hein. Si le code le disait, si les Lumières le pensaient, maintenant en plus la science dit que c'est vrai. Hein. Donc c'est qu'elles sont vraiment inférieures, si en plus la science le souligne. Et donc Gustave Le Bon, alors je ne l'ai pas pris, c'est pas l'exception, hein. C'est un discours parmi bien d'autres. Il n'est pas exceptionnel. Il est exceptionnel parce que c'est un homme extrêmement connu à l'époque, qui travaille en médecine notamment, qui est proche de la Sorbonne. Enfin, je dis, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, d'être très réputé à l'époque. C'est peut-être un des plus connus à la fin du XIXe siècle. Mais il n'est pas exceptionnel dans son discours. C'est le discours des scientifiques à l'époque. Et donc, que dit-il ? Tous les physiologistes qui ont étudié l'intelligence des femmes reconnaissent aujourd'hui qu'elles représentent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine et sont beaucoup plus près des enfants et des sauvages que de l'homme adulte civilisé. Alors, il ne dit pas grand-chose de différent de Rousseau, en gros. Hein ? Mais il le dit et il le prouve. Enfin, il le prouve. Voilà, on sait très bien qu'une science est marquée par la société de son époque, un discours scientifique est marqué par la société de son époque. Il ne faut pas oublier que c'est aussi à ce moment donné-là, et c'est pas anodin, tout est en train de se construire à la fin du XIXe siècle, et il y a des conséquences jusqu'à nos jours, évidemment. C'est au même moment où Gustave Le Bon et d'autres vont comparer les crânes des hommes et des femmes. et vont dire, ah ben oui, celui de la femme est plus léger, plus petit. Donc les femmes sont moins intelligentes que les hommes. On va faire la même chose avec tous les autres crânes de la Terre, hein, les Africains, les Asiatiques, etc. C'est au même moment, c'est le même discours qui va légitimer aussi l'infériorité des races. Alors évidemment, il y a l'homme blanc, vous l'aurez compris, hein, l'homme blanc est celui qui est tout en haut de la pyramide, c'est le plus intelligent, et puis vous descendez et vous arrivez aux hommes du Maghreb, et puis, et alors tout en bas, vous aurez compris, vous avez des femmes, hein, et c'est la femme africaine, hein, parce que voilà, il y a aussi des différences raciales qui sont mises ensemble, et donc, ce discours-là n'est vraiment pas anodin, car il va véritablement légitimer l'infériorité des femmes, où on va réaffirmer la faiblesse des femmes, avec d'autres scientifiques de l'époque extrêmement connus, hein, Cesare Lombroso, qui va beaucoup écrire, lui, sur la criminalité des femmes, hein, notamment en collectionnant, en allant rechercher à Rome tous les crânes des prostituées de Rome et en montrant qu'en fait, elles étaient prostituées depuis qu'elles étaient petites, d'une certaine manière, qu'elles sont nées comme ça. Enfin bon, c'est une époque où on calcule ce genre de choses. C'est l'époque de la naissance de l'anthropologie, hein, elle est née là, hein, elle est née dans ces différences raciales, ce qui va peser évidemment longtemps sur l'anthropologie. Alors certains vont en rire, hein, comme Octave Mirbeau, qui écrit, hein, « Ceux qui avaient des déboires féminins se jetaient avant dans la Seine, maintenant ils se jettent dans l'anthropologie ». Il y a un peu de ça, hein, donc il y en a quand même qui remarquent qu'il y a une sorte de problème, mais il est clair que l'infériorité de la femme se marque de plus en plus, en tout cas par les scientifiques, à la fin du 19e siècle. Alors, ce discours, en fait, ben, il se propage. Il est partout. Et c'est bien ça le problème, évidemment, pour beaucoup, c'est comment résister à ce discours. Et quand on voit en Proudhon, ben, c'est un peu comme Rousseau. Il a plein de choses. Alors Proudhon, la propriété, c'est le vol, hein. C'est le père de l'anarchisme, on le connaît, évidemment. C'est une personnalité emblématique du socialisme qui a fait concurrence à Karl Marx comme penseur et dirigeant de l'école socialiste du XIXe siècle. Proudhon, que va-t-il écrire dans un ouvrage qui s'appelle « La pornocratie », déjà rien que le mot, ou « Le pouvoir des femmes », hein, donc il paraît que c'est un mari follement amoureux de sa femme, hein, on a retrouvé sa correspondance, donc c'est pas lié à ça, il était fou amoureux de sa femme. Mais qu'écrit-il, Proudhon ? Une femme qui exerce son intelligence devient laide, folle et guenon. L'humanité ne doit aux femmes aucune idée morale, politique, philosophique. L'homme invente, perfectionne, travaille, produit et nourrit la femme. Celle-ci n'a même pas inventé son fuseau et sa quenouille. Il y va fort, il y a bien pire. Dans son livre, je vous le conseille, il y a bien pire. Bon, ça vous dégoûte un peu de Proudhon, mais bon, il a écrit tout le reste aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, mais Proudhon a été terrible. Alors là aussi, ok, Proudhon est misogyne. Rousseau est misogyne. En soi, c'est pas un problème. Le problème, évidemment, c'est que c'est pas que ça chez eux. C'est que Proudhon, c'est un peu le père du socialisme, et que le socialisme belge, notamment, va véritablement chercher ses racines dans le proudhonisme, avant que peu à peu on parte de Marx, on aille vers Marx. Et donc, pendant très longtemps, tous ceux qui vont se réclamer du socialisme vont prendre toutes les idées de Proudhon, hein, c'est le bébé et l'eau comme tantôt, et donc on va tout prendre, et donc la plupart des socialistes de la fin du XIXe siècle, ou en tout cas de la moitié du XIXe siècle, vont penser comme Proudhon. Hein, les répercussions sur le mouvement socialiste sont tout à fait terribles. Alors venons-en évidemment justement maintenant que le cadre j'allais dire politique, enfin en tout cas non, le cadre législatif scientifique, politique d'une certaine manière est fixée, venons-en donc maintenant véritablement à la citoyenneté et au droit de vote, en signifiant que le droit de vote, évidemment, d'emblée, varie d'une époque à l'autre. Au XIXe siècle, le suffrage est avant tout perçu comme une fonction. Il implique donc des compétences et des critères d'accès. Ce n'est pas un droit, c'est une fonction, et donc Quand vous exercez une fonction, il vous faut des compétences et il vous faut donc des critères d'accès. Alors, le critère qui a paru à l'époque aux révolutionnaires, ici je parle maintenant de 1830 en Belgique, ce critère qui paraissait le moins arbitraire était la fortune. Alors c'est un critère comme un autre, ils cherchaient un critère, ils ont pris celui-là, ok. Ils ont pris le critère de la fortune car elle suppose un certain degré d'instruction et un certain attachement aux institutions du pays, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient. Voilà, ils prennent ce critère-là, ça aurait pu être un autre. Et donc débute le régime censitaire, c'est le régime qui a prévalu notamment en Belgique, c'est-à-dire si vous aviez de l'argent, beaucoup d'argent, vous pouvez voter, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas voter, voilà, c'est assez facile, et c'est aussi l'optique, vous pouvez vous enrichir, c'est pas fini. Un jour vous pourrez être riche, c'est cette idée aussi très libérale du 19e siècle, un jour... C'est pas le loto, il n'existe pas à l'époque, mais un jour, vous pouvez gagner énormément d'argent, vous pouvez, et alors vous pourrez accéder à la citoyenneté. Un autre critère était aussi accepté, c'était le travail, qui se concrétisait par l'impôt payé pour exercer une profession ou un commerce, c'est ce qu'on appelle la patente. Si vous teniez un commerce et que vous payez une certaine patente, vous pouvez également accéder au suffrage. Il y avait d'autres manières d'accéder au suffrage, si vous aviez évidemment une maison, une énorme maison, une énorme demeure avec beaucoup de fenêtres, parce que l'impôt était sur les fenêtres. Si vous aviez beaucoup de chevaux, il y avait des impôts sur les chevaux. Si vous aviez beaucoup de domestiques, puisqu'il y avait aussi un impôt sur les domestiques, vous pouviez voter. Par contre, vous étiez milliardaire, vous habitiez dans une cave, sans domestiques, sans fenêtres, c'est rare, vous allez me dire... vous ne payez pas assez d'impôts pour pouvoir voter. C'est assez intéressant de voir les critères qui sont mis en avant. À partir de la fin du 19e siècle, évidemment, peu à peu, ce suffrage censitaire va être contesté, qu'on va donc opposer ce suffrage fonction et on va l'opposer au droit naturel, le droit de pouvoir voter. Revenons à cette révolution française, parce qu'évidemment, tout cela se tient, on parle bien d'une citoyenneté, l'idée même que des gens puissent voter est déjà tout à fait révolutionnaire. Cette révolution française, dès le début, le droit de vote est marqué par la division de genre, on consacre le citoyen et les mères de citoyens. C'est-à-dire qu'aux femmes, on dit qu'elles peuvent être importantes dans la vie publique, françaises, si elles sont mères des citoyens, et surtout des citoyens soldats, dès que l'Empire va voir le jour. Mais toutes les constitutions, il y en a eu plusieurs lors de la Révolution française, plus la nôtre en 1831, toutes les constitutions prévoient des exclusions au droit de vote qui visent toujours, toujours les femmes, c'est-à-dire que les femmes, même millionnaires, ne peuvent pas voter. D'autres exclusions existent, la nationalité, on pourra d'ailleurs y revenir, seuls les Français peuvent voter en France, seuls les Belges peuvent voter en Belgique. Une autre notion dans les constitutions, c'est la notion d'évidence, tous ceux qu'on considère comme fous, comme mineurs, trop jeunes, ou comme domestiques, parce qu'ils étaient assujettis, on considérait qu'ils pouvaient être assujettis à leur maître, donc c'était évident qu'ils ne pouvaient pas accéder au suffrage. Comme nous l'avons vu, les femmes vont réagir violemment à cette exclusion politique, mais sans succès. Partout, ça va être une répression, évidemment une répression ultime pour Olympe, de Gouges, et donc il y a là une exclusion de femmes, car le suffrage est d'emblée connoté sexuellement, et on considère qu'être citoyen à l'époque est quelque chose d'extrêmement viril. Le mot virilité revient beaucoup dans le discours politique à l'époque, et donc c'est l'exclusion des femmes découle d'un ordre naturel, entre guillemets, biologique, immanent, c'est normal, on ne doit même pas l'indiquer. La Constitution de 1831 ne dit même pas que les femmes sont exclues, c'est évident, Il faut même pas le noter. Les étrangers, il faut le dire. Les domestiques, il faut le dire. Les fous, il faut. Oui, ça, il faut le mettre. Mais les femmes, il faut même pas l'indiquer. C'est tellement évident qu'elles ne peuvent pas voter et que seul l'homme peut voter qu'il ne faut absolument pas le dire. Et c'est bien pour cela que cette exclusion est plus difficile à combattre que toutes les autres. Car pourquoi ? Pourquoi cette évidence ? Car elle remet en cause l'organisation familiale, cellule de base de toute la société. En tout cas, c'est ce que l'on considère à l'époque. Donc, au XIXe siècle, selon le régime censitaire, seul 1% ou 2% de la population masculine peut voter. 1 à 2% de la population belge va voter au XIXe siècle, donc il y a peu de monde qui peut voter. On va dire ça comme ça. Donc l'exclusion des femmes est évidente, mais en même temps, elle se remarque peu. Sur 1 ou 2%, il n'y a que des hommes. Évidemment, quand les hommes vont accéder au suffrage, l'exclusion des femmes, là, va se voir énormément. Il n'y a donc, à l'époque, aucun débat sur le suffrage féminin. L'exclusion va tellement de soi que personne n'estime nécessaire de préciser cette exclusion. Et il faut dire aussi qu'au XIXe siècle, les femmes n'ont guère revendiqué leurs droits politiques. La question du suffrage arrive en fait très tardivement, à part l'exception d'Olympe de Gouges, qui veut être une citoyenne comme en autre, d'une certaine manière. La question du suffrage est une revendication extrêmement tardive à la fin du XIXe siècle. Et hélas, pour elle, pour les femmes, c'est une exclusion qui arrive tard et dans un moment difficile en Belgique. Ce sont les fameuses émeutes de 1886 dans la région de Charleroi, où vous avez des émeutes, des morts. C'est en climat révolutionnaire et on a extrêmement peur en Belgique. Et donc, toute la bourgeoisie va penser à l'époque que pour calmer les révolutionnaires, pour calmer les émeutiers, s'il y a une désorganisation sociale, c'est à cause des femmes. Si les femmes étaient capables de retenir leur époux à la maison, ils n'iraient pas au syndicat, premièrement, et ils n'iraient pas boire, et ils n'auraient pas de problème à nouer les deux bouts. Hein, si elles savaient cuisiner normalement, etc., si elles savaient tenir ce qu'on disait les cordons de la bourse, du ménage, il n'y aurait pas de problème. Donc, les conséquences de tout ça, après 1886, ça va être la création des écoles ménagères, ça va être une réaffirmation de la place de la femme au foyer pour tenir son époux, c'est ça en fait les conséquences de 1886 aussi en Belgique. Autre moment clé, évidemment, 1885 cette fois-ci, et les deux ne sont pas liés, c'est l'arrivée sur la scène politique d'un petit parti qui va très vite devenir grand, qui est le POB, le Parti ouvrier belge, l'ancêtre du Parti socialiste, qui devient de plus important en 1894, car ils obtiennent, les socialistes, le suffrage plural. C'est-à-dire que ce sont toujours les hommes qui votent, mais un homme... Tous les hommes peuvent voter, d'une certaine manière, mais certains peuvent voter plusieurs fois. Et évidemment, vous l'aurez compris, les plus riches, les plus éduqués, et notamment les curés, peuvent avoir jusqu'à 3 voix. Donc c'est ce qu'on appelle le suffrage plural. Ce n'est pas encore un suffrage totalement universel. Il est universel, c'est-à-dire que tous les hommes peuvent voter, masculin, donc c'est un suffrage universel masculin, plural. Et dans tout ce débat, l'arrivée du POB, l'après-émeute 1886, la question du suffrage féminin se pose, avec différentes options et qui peuvent paraître quelquefois extrêmement étonnantes, parce que les partis politiques, les grands partis, le Parti catholique, Parti libéral et Parti socialiste, vont devoir prendre position. Alors ça peut paraître assez étonnant, mais les catholiques vont prendre position pour le suffrage féminin. Alors le Parti catholique, c'est le parti de la droite, en Belgique à l'époque, ils n'ont pas spécialement les mains libres dans ces questions-là, puisque la doctrine de l'Église affirme bien la subordination et la soumission de la femme. Ils ne croient pas du tout à une égalité homme-femme et certainement pas à une égalité économique. Ils sont bien loin de cela. Ils sont partisans d'une hiérarchie des sexes et adversaires de cette émancipation féminine. Pourtant, ils vont opter pour le suffrage féminin à partir de 1900. 2. Alors, les catholiques, pourquoi en fait, hein, les catholiques sont persuadés que les femmes voteront en masse pour eux. C'est pour ça, évidemment, qu'ils sont pour. En effet, la déchristianisation est moins forte chez les femmes que chez les hommes, et les femmes semblent plus conservatrices que les hommes. En tout cas, c'est ce que les catholiques pensent. Et donc, pour eux, derrière chaque femme se cachant curée, hein, c'est un peu cette vision-là, elles sont conservatrices, donc elles sont tout ce qu'il faut d'une certaine manière, donc si elles votent, elles vont voter catholique. Donc, il faut qu'elles votent. Il faut qu'elles votent surtout que le suffrage universel masculin semble l'emporter de plus en plus. Les libéraux et les socialistes se mettent ensemble pour demander un suffrage universel. Donc il va falloir tempérer pour balancer, contrebalancer ce suffrage universel masculin, et donc en disant ben, si on est obligé de lâcher le suffrage universel masculin, demandons le suffrage universel tout court, demandons que les femmes puissent voter, elles vont voter conservateur. Ça, c'est un peu la vision du Parti catholique. Alors maintenant, la vision des libéraux, ben en fait, ils pensent exactement la même chose que le Parti catholique. Donc s'ils pensent la même chose, ils sont très opposés au vote des femmes, jusqu'en 1914 au moins, les libéraux sont opposés au suffrage féminin. C'est logique, s'ils pensent comme le monde catholique. Les socialistes, c'est peut-être encore un peu plus problématique. Les socialistes, ben, je vous l'ai dit, ils sont influencés par Proudhon dans un premier temps déjà. Et peu à peu, on va voir, comme chez Van der Velde, une conversion aux idées marxistes sur la question des femmes. Parce qu'il dit d'ailleurs dans ses mémoires, « Longtemps, j'ai répété ce que Proudhon disait. Je pensais que la femme était courtisane ou esclave. » C'est ce qu'il disait toujours, je le cite là. Et puis tout à coup, il va être converti d'une certaine manière par les idées de Liebknecht ou de Marx à la fin du XIXe siècle. Mais pendant longtemps, le socialisme a été marqué en Belgique par les idées de Proudhon, avec des conséquences évidemment énormes pour les femmes. Et puis néanmoins, en 1894, c'est la fameuse charte de Carignan qui réclame le droit de vote pour les deux sexes. Donc c'est pas anodin, on réclame sur papier le suffrage universel sans distinction de sexe à tous les degrés, c'est un des articles de la fameuse charte de Carignan, qui est un peu une des la loi quasi du POB, ou en tout cas le programme du Parti ouvrier belge. Mais, parce qu'il y a bien en mai, évidemment, les libéraux se rapprochent des socialistes, ou les socialistes se rapprochent des libéraux en espérant arriver au pouvoir et mettre les catholiques dans l'opposition, et ils vont constituer des listes de cartels pour les élections législatives de 1902. Et les libéraux vont accepter de soutenir le suffrage universel masculin, ce qui n'était pas gagné, à la seule condition que ce suffrage soit limité aux hommes, c'est-à-dire aux socialistes, d'abandonner la revendication du suffrage féminin, ce que les socialistes vont faire. Ils vont donc accepter de mettre de côté le suffrage féminin et... on va donc demander aux femmes de retirer leurs revendications, hein, et les libéraux pensent donc que c'est au foyer qu'est la place de la femme, et donc dans des assemblées publiques. On n'est pas loin des révolutionnaires de 1789, ou en tout cas de 1792-93. Donc nous arrivons à une situation tout à fait paradoxale en Belgique, hein, quand vous expliquez ça à l'étranger, on ne comprend pas très bien la plupart du temps, situation paradoxale où le Parti catholique opposé à toute émancipation féminine est suffragiste, il faut que les femmes votent, il est pour le droit de vote des femmes, tandis que les partis socialistes et libéraux, qui eux sont favorables à l'émancipation sociale et économique des femmes, mais ils sont opposés au suffrage féminin par opportunisme politique. Hein, donc ça peut paraître assez paradoxal, évidemment. Alors c'est évidemment une catastrophe pour les féministes qui étaient persuadées qu'elles allaient obtenir ce suffrage universel. Tout le monde était un peu persuadé, surtout que évidemment le POB n'a rien trouvé de mieux que de demander aux femmes elles-mêmes de retirer. Donc on va faire monter à la tribune des féministes, des socialistes, pour demander au parti de retirer cette revendication du suffrage féminin. Et quelqu'un, d'ailleurs, Henri Lafontaine, c'est quelque chose qu'il n'avalera jamais, qui était sénateur socialiste à l'époque et qui a beaucoup milité pour le droit de vote des femmes, et qu'il n'avalera jamais. Ça a été un échec total pour lui, c'est que ce parti dont il était membre refuse le suffrage féminin. Alors comment les féministes vont-elles s'insérer dans ce jeu politique, puisqu'elles sont quand même renvoyées un peu aux oubliettes? Elles vont se trouver des alliés. D'abord, on va voir naître un féminisme international extrêmement fort, qui donne du poids aux féministes belges, mais qui va donner du poids aux féministes allemandes, françaises, américaines, italiennes, évidemment. Et à l'intérieur du pays, les féministes vont s'engager dans tous les débats moraux de l'époque. Ça va être leur poids fort. Alors ça a des conséquences terribles sur le féminisme au XXe siècle, évidemment. Elles vont se dire, nous devons voter parce que nous sommes différentes des hommes. Nous devons voter parce que nous luttons contre l'alcoolisme, nous luttons contre les maladies, nous luttons contre la prostitution. Elles vont lutter contre ce qu'elles appellent ces fameux fléaux sociaux, et elles vont donc réclamer le suffrage féminin, non pas parce qu'elles sont des êtres humains comme des autres, j'ai envie de dire, mais parce qu'elles font de la politique autrement. Alors ça peut paraître intéressant, mais ça a aussi des conséquences évidemment terribles. Hein. C'est dire que nous sommes totalement différentes par nature. Par nature, nous sommes différentes, hein, c'est un peu ça qu'elles mettent en avant. Et donc, elles vont réclamer au nom de cette différence le suffrage féminin. Mais évidemment, on va le renvoyer. Hein, c'est-à-dire que si elles se disent « nous sommes pacifistes, nous ne voulons pas la guerre parce que nous sommes des mères », dès qu'elles vont accéder au suffrage ou aux fonctions politiques, on va leur donner la petite enfance. Jamais l'armée, jamais le budget, etc., etc. Donc tout cela, enfin c'est une des conséquences, mais vous comprenez bien toutes les conséquences qui vont en découler. Ce qui est clair en tout cas, c'est que le droit de vote n'est pas réclamé sur base de l'égalité des individus, mais bien en raison des différences sexuées et de la capacité des femmes à s'investir dans le domaine social, avec là aussi le poids, hein, j'ai envie de dire chape de plomb, qui va peser tout au long du XXe siècle. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'évidemment, en politique, au sein des partis politiques, le suffrage féminin n'est jamais considéré comme un droit résultant de l'égalité entre les sexes. C'est une arme possible. La question n'est jamais de savoir s'il est juste que les femmes disposent de droits politiques, mais bien pour qui elles vont voter. Toute la question est toujours, toujours là. On ne s'est jamais dit elles peuvent voter parce qu'elles travaillent ou parce que ce sont des êtres humains. Voilà, ça n'a jamais été en débat. À chaque fois qu'on a brandi le suffrage féminin, ça a à chaque fois été, c'est intéressant, mais ça dépend pour qui elles vont voter. Et d'une certaine manière, le droit de vote des étrangers, si vous en souvenez déjà dans les années 70, 80, 90 en tout cas, a été plus ou moins la même chose. Et là aussi, hein, les catholiques se sont dit à certains moments, mais peut-être qu'ils mettent, hein, ils mettent peut-être leurs enfants plus dans les écoles catholiques, et donc peut-être que s'ils votent, ils vont voter catholique, puisqu'ils sont, hein, voilà, vous vous souvenez de tous ces débats. Et du côté libéral ou socialiste, aussi était la question, s'ils votent, pour qui vont-ils voter, hein. Et c'est que dès qu'on a considéré qu'ils pouvaient peut-être voter aussi libéral ou socialiste, que tout à coup, donc c'est pas la question de savoir si ce sont des êtres humains qui peuvent voter, c'est comme les femmes, mais bien pour qui vont-ils voter. Alors, Première Guerre mondiale, hein, très vite, c'est le suffrage universel qui est réclamé à la fin de la Première Guerre. Je reviendrai pas ici sur la Première Guerre mondiale, mais le suffrage universel, lui, à la sortie de guerre, va être accordé par le roi Albert, enfin c'est dans son fameux discours, hein, c'est pas lui qui l'accorde en tant que tel, évidemment, ce suffrage universel va être accordé aux hommes de 21 ans en raison de l'égalité dans la souffrance. L'égalité dans les tranchées, dans la souffrance, c'est ce qu'il met en avant dans son fameux discours. Et donc, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, le suffrage universel masculin existe en Belgique, en homme égale une voix, et en homme ici avec un petit h, d'une certaine manière. Alors, c'est un choc terrible, parce que les féministes étaient persuadées que les femmes allaient obtenir ce droit de vote. C'est un choc terrible car les femmes sont totalement écartées du suffrage et de la citoyenneté. Elles ne comprennent pas pourquoi. Elles se sont battues, quelquefois avec des armes. Elles ont payé de leur vie. Edith Cavell, Gabriel Petit, c'est pas n'importe qui dans les mythes, enfin pas qu'en mythes, mais dans les mythes de la Belgique du XXe siècle. Elles ont fait de l'espionnage, elles ont été infirmières sur le front. Bref, elles ont aussi, d'une certaine manière, combattu. On les a encensées et puis tout à coup, on leur refuse ce droit de vote qui a été évidemment extrêmement discuté à l'époque. Et là aussi, c'est un compromis à nouveau. Les catholiques ont réclamé le droit de vote et ne l'ont pas obtenu au niveau national, mais ils vont l'obtenir au niveau communal. C'est ça le compromis à la Belge aussi. Et donc les femmes obtiennent le droit de vote aux communes, à l'exclusion notoire, c'est quand même passionnant, et je reste persuadé qu'il faut travailler là-dessus, en 1920, aux communes, tout le monde peut voter, hommes et femmes, belges, sauf les prostituées. Donc là, il y aura encore beaucoup de choses à dire et à faire sur cette question. Au Parlement, il y a quand même certaines femmes qui vont pouvoir voter. Alors, je crois qu'on est au 0,69% de femmes. Mais enfin, certaines femmes vont pouvoir voter, certaines catégories de femmes, celles qui vont le demander. Celles, les femmes qui se considèrent comme héroïques, qui ont eu des actes héroïques pendant la guerre, c'est bien de ça dont il s'agit, peuvent, si elles le demandent, voter. Il faut déjà faire la demande, aller à l'administration, dire « je suis héroïque et je réclame le droit de vote ». Mais certaines vont l'obtenir. Et puis, peut-être plus étonnant, et là aussi ça étonne ou ça choque encore, en tout cas à l'étranger, ce sont les femmes de soldats morts au combat, ou les mères de soldats célibataires morts au combat, si elles-mêmes sont veuves. C'est ce qu'on appelle le droit de vote des morts. Le droit des morts. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouviez voter pour votre époux, s'il était mort, vous pouvez prendre sa place. Donc vous votez pour, enfin c'est lui qui vote en fait, par votre intermédiaire. C'est lui qui vote et c'est à tel point lui qui vote que si vous vous remariez, vous perdez votre droit de vote. Ce qui démontre bien que c'est pas vous qui votiez, c'est le mort qui vote grâce à vous. Donc c'est peut-être encore pire que rien. Mais enfin bon, c'est évidemment extrêmement intéressant également. Ça reste évidemment tout à fait minime au niveau, là aussi, il a fallu faire la demande, etc., etc. Donc, certaines ont pu le faire, mais très peu l'ont fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'éligibilité, elle, est acquise. C'est-à-dire que les femmes peuvent être éligibles. Mais c'est bien là, au niveau symbolique, puisqu'au Parlement, on va compter 3 élus et à la Chambre et 3 sénatrices cooptées, des noms qui résonnent peut-être encore, comme Isabelle Blum, comme Lucie Desjardins, une ancienne hiercheuse, qui va être élue, elle, vraiment, par des hommes, donc seuls des hommes peuvent voter, et qui va être élue par des hommes. On cite aussi le nom de Marie Spaak, la grand-mère d'Antoinette, la mère de Paul-Henri Spaak, mais c'est une sénatrice cooptée, c'est-à-dire qu'elle a été choisie par le parti, elle n'a pas été élue directement, mais elle va être sénatrice durant l'entre-deux guerres. Après 40-45, ben, ça va aller plus vite. Il a fallu attendre le contexte de guerre, où évidemment le contexte est très différent, c'est une guerre où il y a eu des résistants aussi et des résistantes, où on a gazé, j'ai envie de dire, quasi autant de femmes que d'hommes, dans la souffrance, puisqu'on revient au discours d'Albert, la souffrance a été totale pour les deux sexes, et il a fallu attendre quand même en Belgique 1948, la Turquie c'est 1934, la Nouvelle-Zélande c'est 1893, la France c'est 1945, donc ça c'est assez étonnant, c'est qu'il y a quand même encore en recul, entre 45 et 48, pour le suffrage féminin, qui s'explique en partie par la question royale. l'idée du retour du roi, Léopold III, et ce fameux référendum, et donc cette idée aussi, à nouveau, on est dans le cliché, les femmes sont plus maternantes, vont plus accepter peut-être le remariage de Léopold III, etc., et donc vont peut-être voter plus massivement pour le retour du roi. Et donc, on a un peu tenté de retarder aussi le droit de vote des femmes pour cette raison, car on avait peur que les femmes votent plutôt pour le retour du roi. Et on pensait aussi que les curés, évidemment, toujours derrière le droit de vote des femmes, mais aussi que les femmes de collaborateurs à qui on avait enlevé les droits civils et politiques allaient voter pour leur époux. Hein, que donc, à nouveau, la femme ne peut pas voter seule, elle vote comme papa ou comme le mari. Et donc, il faut attendre 1949 pour que les femmes votent pour la première fois en Belgique. Elle aurait dû, cette loi de 1948, aurait dû clôturer la question de la citoyenneté féminine. Alors très vite, et on peut y revenir parce que ça c'était l'aspect historique, si on revient à des périodes plus récentes, on s'aperçoit très vite que les inégalités se reforment dans la représentation, en tout cas, de ces femmes. C'est pas parce que les femmes peuvent voter qu'elles votent pour des femmes. Il faut attendre 1965 pour qu'il y ait la première femme ministre, Marguerite de Rimaker-Legault, ministre de la Famille. Hein, vous voyez que c'est quand même pas le ministère le plus... Voilà, une CVP, 1965, puis plus rien pendant très longtemps, et peu à peu va se poser la question du quota. On se rend compte, notamment en 1968, qu'il y a autant de femmes présentes au Sénat ou au Parlement que durant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire quasi pas. Pourtant, les femmes ont obtenu le droit de vote, mais les femmes ne se présentent pas, et surtout, les femmes ne votent pas pour des femmes, et les hommes ne votent pas pour des femmes non plus. Et donc, il y a très très peu d'élus, voire quasi pas, notamment en 1968, c'est assez étonnant, et donc va naître tout un débat, on pourrait y revenir, un débat extrêmement intéressant sur les fameux quotas, ou le débat plus récent sur la parité, avec évidemment, je souligne juste cela, puisque Paula Dont en 1980 va déposer une proposition de loi visant à imposer un quota aux élections communales. Ça va être considéré comme anticonstitutionnel par le Conseil d'État. Bon, au bout du compte, ça passera par la suite. Mais ce qui est juste soulever ça quand même pour vous montrer que le débat n'est pas achevé. Nous sommes dans un pays de quotas. S'il y a bien un pays qui fonctionne avec les quotas, c'est bien la Belgique. Vous organisez n'importe quelle réunion en Belgique, il vous faut en flamand, en francophone, peut-être en germanophone, il vous faut en laïque et en catholique. S'il faut des universitaires, il faut quelqu'un de l'ULB, de Louvain, de Liège, il faut une université d'État. Il vous faut un peu des jeunes et un peu des vieux. On est le pays des quotas, mais alors par excellence, puisque c'est le compromis, c'est notre manière de fonctionner. Les quotas ne posent aucun problème en Belgique. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'opposer à ces quotas, ou à peu près, sauf pour les femmes. C'est quand même intéressant de se dire, et j'en ai beaucoup entendu, les femmes, c'est pas vraiment ça, et les quotas, c'est pas bon, etc., etc. Je prends même pas position sur les quotas, je peux d'ailleurs ne pas être tout à fait pour, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on le soulève. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soulève la question des quotas, mais alors on soulève pour tous les quotas, ce qu'on ne fait pas. Donc c'est vraiment en quelque chose qui reste et qui est marqué. On a considéré que c'était anticonstitutionnel. On est arrivé très récemment à la question et au débat sur la parité, car désormais, pour être valable, les listes électorales doivent représenter la parité entre candidats féminins et masculins. Et vous savez que certains partis refusent encore aujourd'hui et préfèrent payer des amendes plutôt que de mettre le même nombre candidats. Mais néanmoins, on a vu quand même changer les choses, et on voit de plus en plus aujourd'hui des femmes en politique. Mais rien n'est gagné, rien n'est acquis. Les postes de direction, y compris en politique, et il y aurait bien d'autres choses à dire, et on pourrait y revenir dans la discussion. J'en viens maintenant pour le quart d'heure qui me reste, 10 minutes qui me reste, quart d'heure qui me reste, venir sur un autre grand combat des féministes, car le politique, on l'a vu, a été très marqué par l'histoire des partis, essayer de revenir sur l'enseignement et sur les stéréotypes, là aussi, hein, Jean-Jacques Rousseau a marqué l'éducation, pour plein de raisons sans doute très positives, mais comme il considère que la femme ne crée pas, ben, elle n'a pas besoin du même enseignement que les garçons. De fait, si vous partez de cette vision-là, ben, ça a des implications, y compris dans l'enseignement. Et donc, il y a eu des différences entre les sexes depuis que l'enseignement existe. Et on remarque encore aujourd'hui que les stéréotypes ont la vie dure dans l'éducation, évidemment, des enfants. Une toute récente étude bancaire en Belgique révèle qu'un garçon reçoit plus d'argent de poche qu'une fille. Les parents, consciemment ou inconsciemment, ou les grands-parents d'ailleurs, consciemment ou inconsciemment, donnent plus d'argent au petit garçon au même âge qu'une petite fille. Hein, on considère que le petit garçon a de plus de besoins, de demandes d'argent qu'une petite fille. C'est tout bête, hein, mais ça démarre là, hein, il faut jamais l'oublier, c'est à cet âge-là que ça démarre. Et aujourd'hui, aux États-Unis, des études montrent aussi, mais ça, on le sait bien en Belgique, et sans doute aussi depuis l'affaire du trou, le renforcement a été plus fort, que les parents font moins sortir les filles que les garçons pour jouer, et on sait à quel point sortir dans l'espace public, jouer, construire, est quelque chose de fondamental pour aussi se projeter dans la vie future, y compris dans les études, et tout cela a évidemment des implications extrêmement forte, notamment avec les jouets, ou j'imagine avec ce type de lecture que vous connaissez très certainement. Vous voyez que le garçon range quand même, c'est-à-dire qu'il déplace, il déplace le meuble pour pouvoir laver en dessous. Les stéréotypes ont évidemment la vie dure. Je me suis amusé, mais il y en a énormément. Toutes les études de sociologie montrent qu'il y a même un renforcement aujourd'hui dans l'éducation des inégalités entre garçons et petites filles. On a cru dans les années 70, notamment avec des marques comme Lego ou autres, qu'une forme de mixité dans certains jouets était en plus. Et on remarque aujourd'hui que pas du tout, qu'il y a un renforcement et que les jouets étaient de plus en plus sexistes. Même Lego s'y est mis d'une certaine manière. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des Lego pour garçons et des Lego pour filles. Hein. C'est un grand changement. Lego pour filles, ils sont roses. Hein, voilà. Ils sont surtout moins nombreux dans la boîte et plus faciles à construire. Donc d'emblée, on considère, c'est quand même intéressant, d'emblée on considère que la petite fille aura des difficultés que le garçon n'aura pas dès le départ. Même chose parce que on est dans la modernité, dans la technologie, hein, le Game Boy par exemple, déjà le nom, hein, c'est bien un jeu de garçon, le Game Boy. Tous les jeux électroniques existent, il y a la version garçon et la version fille déjà, et la version fille c'est des programmes beaucoup plus faciles. Beaucoup plus accessible, donc d'emblée, hein, tout est là. C'est extrêmement intéressant de voir la construction qui se fait dès le plus jeune âge, que certaines féministes à une époque ont marqué, mais avec ce qui se passe et les armes à feu, chacun a son boulet d'une certaine manière. Hein, on a beaucoup dénoncé aussi le revolver l'arme comme jouet. Il y a eu là énormément de débats. Débat évidemment aussi autour de cette poupée Barbie, hein, qui existe depuis 1959, substitution d'une poupée femme à une poupée enfant, d'une certaine manière, qui est une rupture fondamentale dans la socialisation des petites filles, hein. Pour beaucoup de psys, il s'agit d'un fantasme d'adulte bien plus que d'enfant. Alors, il y aurait beaucoup de critiques à faire aussi sur ce jouet-là. Hein. Alors, je sais que pas toutes les petites filles d'ailleurs, mais certaines petites filles ou petits garçons d'ailleurs adorent les poupées Barbie. Mais une des critiques, évidemment, c'est celle-là, c'est que Barbie n'est pas humaine. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut passer sur le billard. et couper tout ça pour essayer de ressembler à la poupée Barbie, et certaines études montrent qu'il y aurait même un corollaire avec l'anorexie, elle n'est pas à taille humaine. Ressembler à Barbie, montrer ça comme projet de vie ou comme identification, en tout cas, auprès d'une enfant, a des conséquences évidemment terribles, surtout quand la firme Mattel, et ils l'ont fait, font des poupées Barbie qui parlent. Et certaines parlaient tellement bien qu'ils leur ont fait dire « je n'aime pas les mathématiques, je n'aime pas les mathématiques, je n'aime pas les mathématiques ». Alors, les féministes américaines, hein, on les critique souvent, ont été en guerre contre Mattel à ce moment donné-là. Mattel a retiré quand même la poupée Barbie du marché, mais c'est bien pour vous dire à quel point c'est ancré et à quel point ça a une influence terrible sur les enfants. On fait croire aux petites filles d'emblée qu'elles n'aiment pas les mathématiques, comme ça elles ne feront pas d'études scientifiques, et c'est aussi les études scientifiques, hein, qui peuvent rapporter, mais qui peuvent aussi ouvrir et construire la société. Alors ça, c'est une petite... un petit dessin américain qui a été traduit, mais qui est extrêmement intéressant, hein. En jouet de garçon, c'est quoi ? C'est en mécano, hein. C'est quoi en mécano ? Tu fais quoi avec ça? Tu l'assembles de plein de manières, puis tu le ranges en ordi, tu le télécommandes, hein, etc., etc. Et jouer des petites filles, ça fait quoi? Une poupée, ça fait la poupée. Hein. Et alors après, la question, c'est de savoir pourquoi il y a autant de filles, aussi peu de filles, qui font des études d'ingénieurs, de polytechniciennes, etc. Je trouve que c'est assez bien résumé. Voilà. Alors ces stéréotypes existent évidemment dans les jouets, ils existent aussi à l'école, et là aussi c'est pas anodin, ça a été un combat mené par des féministes, dont deux féministes extrêmement connues, je vais vite les citer, c'est Zoé de Gamont, hein, la mère d'Isabelle d'une certaine manière, qui a été une des féministes engagées lors de la Révolution belge, et qui va véritablement... construire des écoles, ça va être un échec terrible pour elle, mais néanmoins, elle va tenter au début du 19e siècle de créer des écoles pour filles de la classe ouvrière. Ça ne va pas fonctionner, c'est un échec. Et puis, par la suite, une autre femme va se démarquer, évidemment, c'est Isabelle Gatti de Gamont, qui va, je vais directement passer, puis je sais que le temps manque, Isabelle Gatti de Gamont, qui va en 1864, elle, réussir ce que sa mère avait raté, en fait. Alors, le contexte politique a profondément changé en Belgique, et elle va là obtenir un appui chez les libéraux à Bruxelles pour pouvoir ouvrir une école pour les petites filles, qui va devenir les cours d'éducation de la rue du Marais, hein, qui est aujourd'hui, évidemment, l'Athénée de Gatti de Gamont. Et en fait, pourquoi a-t-elle été soutenue par le monde politique libéral et puis socialiste, puisque Gatti, à la fin de sa vie, dès qu'elle sera pensionnée, va profondément militer dans les milieux laïcs, socialistes et maçonniques. Pourquoi son idée a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné pour sa mère? Et pourquoi chez elle ça marche, son école? Ça fonctionne parce que dans la vie politique belge, les femmes sont perçues comme des chevaux de Troie, hein, au sein des familles libérales. Si vous prenez le film Dance, que vous avez peut-être encore vu, vous voyez Charles Wust, qui était le leader charismatique de la droite catholique. C'était le président de la droite catholique au XIXe siècle. Il n'était pas anodin, c'était un leader extrêmement... Voilà. Il faut savoir que Charles Wust, son papa, il était franc-maçon et protestant. Alors comment, hein, je donne l'exemple, mais à l'époque on réfléchit à cela, comment le fils de cet homme devient le leader de la droite catholique en Belgique et l'ennemi des libéraux et des socialistes? Ben, il le devient aussi parce qu'il a une mère. Et il a une mère profondément pieuse, profondément catholique. Hein. On est toujours bien plus le fils de sa mère que de son père. Hein. C'est bien connu, et donc, en fait, c'est une des... Il y a d'autres exemples, hein, je pourrais en citer plein, qui vont faire que libéraux et socialistes vont peu à peu se pencher sur cette question et vont discuter et vont se dire que tout compte fait, il vaut mieux avoir des femmes éduquées, pas trop, hein, mais des femmes éduquées à la maison, aux idées libérales ou aux idées socialistes, pour ne pas que le fils... Hein, surtout que les enfants aillent du côté catholique. C'est pour ça que Gatti arrive à ce moment donné-là et qu'elle tombe très bien, en fait, hein, en 1864. Son projet trouve, en répondant, chez les libéraux, et donc elle va créer son école, hein, ici la revue des écoles devant le Palais Royal de Jan Verras, qu'on peut voir au musée des Beaux-Arts, où on voit Gatti à gauche. La troisième ou la quatrième petite fille, c'est Marie Spaak, car toutes les intellectuelles belges de l'époque, et pendant très longtemps, vont passer par Gatti ou par Doha à Liège, qui va être un peu ce même type d'école, qui vont créer des écoles pour jeunes filles, rien que pour jeunes filles, avec des sciences, avec des langues, ce qui est extrêmement important. Les études universitaires, ça va mettre encore beaucoup plus de temps. Il faut attendre la toute fin du 19e siècle pour que les femmes puissent accéder à l'université. D'abord à l'ULB, à Liège, à Gand, Louvain, il faudra attendre 1923 ou 1920, enfin très tard, ce qui explique aussi qu'il y a eu au XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, moins d'intellectuels universitaires catholiques de fait, puisqu'elles ne pouvaient pas y accéder. Les filles vont pouvoir accéder à l'université, ça va être très compliqué, hein, je pourrais revenir aussi sur ces débats-là. Elles vont pouvoir y accéder, mais une fois qu'elles y accèdent, ben, il va falloir qu'elles réussissent ce qu'elles vont faire, il va falloir aussi professer. Une fois qu'on a un diplôme, il y a aussi l'idée de pouvoir travailler avec ce diplôme. Et en 1888, Marie Poplin, qui est une ancienne institutrice de Gatti, hein, d'Isabelle Gatti de Gamont, Marie Poplin est diplômée de droit. Elle a demandé à rentrer à la fac de droit. Elle obtient son diplôme de droit. Et que fait-on avec son diplôme de droit? Souvent, eh ben, on demande l'accès au barreau. C'est-à-dire, elle demande de devenir avocate, hein, de pouvoir plaider. Hein, ce qui est assez logique, avec son bureau, avec son diplôme de droit. Et ça va être un refus total. Elle va être, comme le montre la caricature, éjectée du palais de justice. Alors pourquoi va-t-elle être éjectée? Je finirai peut-être par là, même si j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je vois que le temps passe. Je crois que... Enfin bref, pourquoi va-t-elle être éjectée? Donc ça, c'est le procureur général, hein, c'est pas moi. Le procureur général va refuser l'accès au barreau à Marie Poplin. Elle ne peut pas professer, elle ne peut pas être avocate. Pourquoi? Car la nature particulière de la femme, la faiblesse relative de sa constitution, la réserve inhérente à son sexe, la protection qui lui est nécessaire, sa mission spéciale dans l'humanité, les exigences et les suggestions de la maternité, l'éducation qu'elle doit à ses enfants, la direction du ménage et du foyer domestique confié à ses soins qui la place dans des conditions peu conciliables avec les devoirs de la profession d'avocat et ne lui donne ni les loisirs, ni la force, ni les aptitudes nécessaires aux luttes et aux fatigues du barreau. Donc on est retourné, et d'une certaine manière, à un certain moment on y est encore, hein, on peut en discuter, mais on est retourné à la nature de la femme, à l'essentialisme, c'est au nom de la nature que la femme ne peut pas plaider. Il faudra attendre 1922, encore 40 ans plus tard ou un peu moins. Marie Poplin sera décédée d'ici là. C'est au nom de sa nature que la femme ne peut pas travailler, ne peut pas plaider, en tout cas ici être avocate. On va dire qu'elle va accoucher pendant qu'elle est en train de plaider, on va dire qu'elle aura ses règles et qu'il y aura du sang partout au palais de justice. On va dire que donc, c'est pas là sa place, hein, c'est parce que femme, alors qu'elle a son diplôme, alors on va dire que parce qu'elle est mère ou mariée, elle peut pas. Alors ce qui est assez drôle et ce qui démontre bien qu'on est là dans l'essentialisme, c'est que Marie Poplin, ben, vous venez de la voir, elle a passé 40 ans, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant. Et pourtant, c'est au nom de sa maternité supposée, c'est au nom du foyer qu'on va lui refuser. Donc, ce n'est pas elle qu'on refuse. C'est vraiment aux femmes en tant que telles qu'on va refuser cet accès au barreau. Et du coup, l'affaire Poplin a le mérite de cela au moins. Du coup, juste après cette affaire, en 1892, des hommes et des femmes, dont Henri Lafontaine d'ailleurs, vont créer la première ligue des femmes en Belgique, qui est en fait le premier mouvement féministe structuré belge, qui va voir le jour d'ailleurs dans les locaux de l'ULB et qui va être donc le premier mouvement féministe pour l'accès des femmes à toutes les professions, et on le doit donc évidemment à Marie Poplin, qui ne verra jamais, elle n'arrivera jamais à être avocate puisqu'elle décédera entre-temps, mais qui est devenue une grande figure aussi du droit, d'une certaine manière, en Belgique. Voilà, j'ai essayé de vous montrer, j'ai encore plein de choses à vous dire, deux mouvements, le mouvement de l'éducation, le mouvement du monde politique, pour vous montrer la structuration du mouvement féministe en faisant peut-être des va-et-vient ou des allers-retours vers l'actualité. Tout y est, je crois, en tout cas pour comprendre la suite et comprendre beaucoup de l'actualité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je...
Vous venez d'écouter une conférence donnée le 26 octobre 2016 à La Louvière, dans le cadre de l'extension de l'ULB. Valérie Piette, historienne de l'ULB, retraçait l'histoire du féminisme au XXe siècle.
Tu crois que La Bande de Gaza est un groupe de rock ?
Tu crois que La Chute des Bourses est un nouveau film porno ?
Tu crois que Paul Magnette se colle sur ton frigo ? Pour tout savoir, 92.1
Radio Campus.